Viens, maudis-moi Jacob. Viens, fulmine contre Israël. Mais comment maudirai-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerai-je quand Dieu ne fulmine pas? Oui, de la crête du rocher, je le vois, du haut des collines, je le regarde. Voici un peuple qui habite à part. Il n'est pas rangé parmi les nations. Qui pourrait compter la poussière de Jacob? Qui pourrait dénombrer la nuée d'Israël? Puissais-je mourir de la mort des justes? Puisse ma fin être connue de l'homme? Donc il est en train de voir le campement d'Israël et il ne peut pas maudire cette réalité-là. C'est une réalité qui est en germe en fait. Et alors, il a toute une tirade, un poème pour Balak. Et puis finalement, je ne peux pas tout vous prendre, mais je suppose que vous connaissez bien le passage qui est fort intéressant. Balak se mit en colère contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « Je t'avais mandé pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis, et par trois fois. Déguerpis, et va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerai d'honneur, c'est le Seigneur qui t'en a privé. » Balaam répondit à Balak, « N'avais-je pas dit à tes messagers, quand Balak me donnerait de l'or et de l'argent, plein sa maison, qui avait toujours pouvoir économique là derrière, je ne pourrais transgresser l'ordre du Seigneur et faire de moi-même ni bien ni mal. Ce que le Seigneur dira, c'est ce que je dirai. Maintenant que je pars chez les miens, viens. Je vais t'aviser de ce que ce peuple fera à ton peuple dans l'avenir. » Alors il prononça son poème et il dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir. » Shaddai, c'est littéralement le dieu de mes saints. Les saints, c'est Shad. Shaddai, ce sont les saints, le dieu de la vie. Il voit ce que Shaddai fait voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël, il frappe les tempes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. C'est-à-dire qu'il assure sa puissance contre ses ennemis. Édom, un des ennemis d'Israël tout autour, en sud-est, devient un pays conquis Séir, même région, Édom, Séir, deux synonymes. Israël déploie sa puissance, Jacob domine sur ses ennemis et fait périr les rescapés de Ar, qui est probablement la capitale de la mort. Et bien voilà, un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. Dans la tradition juive, cet astre, c'est David et son successeur Salomon. Et puis c'est devenu l'image du Messie, c'est-à-dire du oint par Dieu, qui va restaurer la royauté en Israël, et c'est comme ça que ça va devenir l'étoile des rois mages, finalement. Mais tout ça est déjà présent ici comme en germe. Il y a un signe, l'astre, c'est un signe qui vient de Dieu, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vient de la terre, c'est un signe qui vient de Dieu. Et alors, voilà, puis Amalek, je vous ai dit que c'est l'ennemi numéro un d'Israël, c'est celui qui veut rayer Israël de la carte. Amalek, prémisse des nations, mais sa postérité périra pour toujours. Il a de la puissance, mais la puissance humaine ne s'appelle pas finalement. Il vit les Kénites, les différents ennemis d'Israël, les Kénites, les descendants de Caïn. Il prononce à son poème, il dit, ta demeure fut stable, Caïn. Et ton nid juché sur un rocher, mais le nid appartient à Béor jusqu'à quand sera du captif d'Assur. Il y a un avenir qui n'est pas tout à fait rose. Il dit Og, roi de Bassan, il prononça son poème, il dit, les peuples de la mer se rassemblent au nord, les vaisseaux du côté de Kittim, Kittim c'est la ville de Chypre, ils oppriment Assur, ils oppriment Réver, lui aussi périra pour toujours. Puis Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak lui aussi, passa son chemin. Et juste après ça, eh bien voilà, la récidive du veau d'or, à Beth de la maison de Péor, c'est au fond de la maison de la malédiction, nous dirons, c'est voilà que les filles des Madianites viennent entraîner le peuple d'Israël à faire quoi? À adorer leur Dieu, leur faux Dieu, leur idolâtre. Voilà que Balaam vient de proclamer la bénédiction du peuple, et le peuple ne comprend pas. Il ne comprend pas, cette présence de Dieu lui échappe, et il va toujours vers le plus facile, c'est-à-dire l'utilité. On parlait d'argent tout à l'heure, ici, on parle de la vie de confort de derrière aujourd'hui. Et alors, on se remet en marche, il y a encore des lois, on va tailler en pièces tous les ennemis, bon. Et puis on partage le butin, on fait des offrandes au Seigneur, on vous rappelle quelles sont les frontières de Canaan, les villes de refuge. Au fond, on essaie de voir ce que pourra être la vie quand on sera établi, quand on ne sera plus nomade. Et on nous mène doucement vers les frontières de Canaan, c'est-à-dire le Jourdain, que l'on va passer. Mais est-ce que la génération du désert pourra passer le Jourdain? Ceux qui sont venus d'Égypte, eh bien non. Eh bien, ils vont tous périr dans le désert, sauf deux, Josué et Pinchas. Josué, il va prendre la relève de Moïse, et Pinchas, il va prendre la relève d'Aaron, un fils d'Éléazar, qui est un fils d'Aaron, et il va prendre la relève d'Aaron. Donc, il y a déjà tout ce que nous ne pourrons pas faire, eh bien, ce sera légué à nos descendants qui auront les mêmes difficultés que nous, qui auront les mêmes tentations, les mêmes problèmes que nous. Et il ne faut pas vouloir que ce soit meilleur, il faut qu'ils affinent eux aussi leur niveau. Je vous donnerai, si près, deux ou trois passages de la conclusion du Père Buy, un Père Buy qui a fait un beau petit cahier évangile numéro 78 sur le livre des nombres. Il va y avoir tout un commentaire, là, bien fait. Et je prends surtout dans la conclusion, parce qu'il nous dit très bien quel est le but de ce livre des nombres que l'on ne lit pas beaucoup généralement. Résumons ce qui a été découvert de l'image du peuple de Dieu qui nous est proposé dans sa diversité. Israël se définit comme un peuple consacré au Seigneur, sans prétendre être le seul. C'est un peuple séparé. Dans le désert, il l'est automatiquement, mais il devra le rester, même quand il prendra une vie sédentaire au milieu des nations. Dans le pays qu'il va occuper, il faudra faire place nette. Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous aurez laissés seront comme des piquants dans vos yeux et des épines dans vos flancs. Hein, faites attention, parce qu'ils ne reconnaissent pas le même Dieu. Donc, faites attention. Donc supprimer tout. Manière de parler, évidemment, hein. Vous supprimez tout dans notre cœur. Un peuple séparé. Un peuple soumis à la parole de Dieu. Celle-ci ne lui est jamais adressée directement comme au Sinaï, au chapitre 19 et 20. Il passe par des hommes. C'était déjà le projet de l'Église. Moïse et ensuite les prophètes. Pour la tradition sacerdotale, Dieu parle aussi par des signes matériels. La nuée, par exemple, c'était même par différents rituels. La soumission du peuple à cette parole n'est qu'un idéal. Et toutes les traditions s'accordent pour souligner les refus. On ne vous dit pas que tout va très bien, On vous dit au contraire que les gens ne comprennent pas. Pourquoi donc vous étonnez si nous avons des problèmes, nous aussi. Troisièmement, un peuple chez qui Dieu habite, chez qui il est manifeste, et il manifeste, pardon, visiblement sa présence. Les nombres soulignent surtout l'aspect redoutable de cette présence, les bouffées de colère qui déciment le peuple. La tradition sacerdotale en déduit, il faut garder ses distances et décrit tout un réseau de protection. Dieu, quand il se réveille, ça va mal. Troisièmement, Israël est aussi un peuple itinérant. Toutes les traditions affirment que la présence du Seigneur n'est liée à aucun lieu. On est aux antipodes de la sacralisation du site de Jérusalem, développée dans les psaumes et certains textes prophétiques. Le Seigneur est nomade, comme le peuple qui l'accompagne, ou plutôt qui conduit, car c'est lui qui définit l'itinéraire et l'horaire. Bien sûr, on se prépare à une installation, mais pas de manière de se fixer irrévocablement à un sol. Nous n'avons pas de choses sur lesquelles nous pouvons mettre la main. Et finalement, Israël est un peuple béni. C'est surtout par la voix de Balaam qu'on le sait, la bénédiction sacerdotale le rappelle en permanence. Dans le récit, la bénédiction est plutôt espérée que possédée. Mais elle se manifeste bien souvent au cours de la longue marche. Nourriture et boisson, fécondité, victoire sont plus que des attentes. Et donc le sens du désert est déjà perçu comme étant la vie de tous les jours. Que signifie le désert? Si toute la Bible en parle, c'est quand même dans le livre intitulé « Dans le désert » qu'on peut chercher la signification de ce lieu typique. Les conclusions de l'étude peuvent sembler décevantes. L'impression d'ensemble est très négative. Il ne s'agit pas ici de chercheurs de Dieu qui se retirent au désert comme le lieu idéal de la rencontre avec Dieu. C'est une masse qui y est poussée plutôt malgré elle. Elle y va pour un pèlerinage dont l'exode montre les bons côtés, mais surtout les mauvais, le mot d'or et puis le péril. Après cela, le désert ne devrait plus être que le lieu d'une traversée aussi rapide que possible. Les fils d'Israël ne recherchent pas le désert pour lui-même, c'est un passage obligé, sans plus. Mais la génération qui est entrée n'en sortira pas. Et donc il faut inventer toutes sortes de coupes sombres dans le peuple pour bien dire qu'il n'y a personne qui était là à la sortie d'Égypte et qui arrivera en Canaan, excepté le témoignage. Le lieu de passage devient une prison à perpétuité. Au mieux, le creuset où la masse sortie d'Égypte s'affine et devient un peuple. Plus exactement, la génération sortie d'Égypte y engendre un peuple au prix de sa propre vie. Il faut toujours laisser la vie que nous avons. Moïse lui-même sera soumis à cette loi. Tu ne passeras pas. Tu vois le territoire, mais tu n'y passeras pas. Et Moïse supplie le Seigneur, lui dire, mais quand même, tu m'as rendu responsable du peuple, maintenant que je le conduis, je suis en terre. Ça, c'est ton idée. La mienne est différente. Tu vas laisser un autre passer à ta vie. Alors, nous arrivons justement à passer dans le discours, dans un triple discours de Moïse. Et comme c'est indiqué dans les feuilles que je vous ai remises tout à l'heure, eh bien, vous avez un plan du Deutéronome extrêmement bien fait. Il est dit par la répétition d'une même formule, et chose curieuse, on est déjà habitué, ce sont des formules que l'on trouvait déjà dans la Genèse. Vous vous rappelez, telles sont les générations. Eh bien, au lieu d'avoir telles sont les générations, les colonnes, c'est-à-dire l'histoire. On a maintenant quelles sont les paroles. Ah, et donc le livre du Deutéronome en hébreu va avoir comme titre les paroles de la religion. Quelles sont les paroles. Et depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, on reprend l'histoire. Mais cette fois-ci, c'est le narrateur qui se passe devant Moïse, plutôt le narrateur qui nous dit que Moïse nous dit un triple, nous fait un triple discours. Premier, deuxième, troisième, et il va avoir un quatrième point aussi. Et ce quatrième point, ça va être le cantique de Moïse, le cantique, avec la bénédiction. Et vous vous rappelez que, au chapitre 49 de la Genèse, Jacob bénissait ses fils, et bien au chapitre 33 du Deutéronome, Moïse va bénir les fils de Jacob, c'est-à-dire les tribus d'Israël. Donc il y a vraiment une organisation dans ce livre, nous en reparlerons la fois prochaine, mais essayons de voir déjà maintenant quelles sont les grandes articulations de ce Deutéronome. Telles sont les paroles que Moïse dit à tout Israël au-delà du Jourdain. Et ça, ce sont déjà les premiers mots du livre du Deutéronome, 1, chapitre 1, premier discours, qui va jusqu'au chapitre 4, versets 44 et 45. Et là, nous avons « Et telle est la Torah ». Ce sont des paroles qui vont devenir un enseignement. Torah ne signifie pas « loi » déjà écrite totalement, c'est un enseignement. Ce sont des flèches, Torah vient de la racine « yarak » veut dire « tirer une flèche ». Ce sont des enseignements, ce sont des flèches qui sont tirées pour inviter l'homme à vivre sa liberté. Telle est la Torah que Moïse plaça devant les fils d'Israël. C'est un enseignement qu'il faut petit à petit intérioriser quand ils sortirent d'Égypte. Et donc là, à partir du chapitre 4, versets 44 et 45, nous avons une Torah. Une Torah qui reprend la loi sacerdotale qui se trouvait ici, qui reprenait déjà les 10 paroles, les 10 paroles du Sinaï. Donc, c'est une refonte en quelque sorte d'une Torah, c'est-à-dire d'une manière de vivre qui était bonne au désert, qui a été reprise à la loi d'Israël sous la royauté projetée comme si elle avait été établie au désert, et maintenant qui est donnée après la réforme, en tout cas de Josias, en 622, qui est ce qu'on appelle généralement la troisième loi de droit, la loi deutéronomique. Mais cette loi-ci, cette manière de vivre, est indiquée non plus comme des tribus qui vivent dans le désert, mais comme des tribus déjà sédentarisées. Et ce code, on l'appelle généralement code deutéronomique, ce code deutéronomique est le plus récent, sinon. Celui qui nous donne un peu l'idéal, je dis bien l'idéal, mais souvent les commentateurs parlent d'utopie, encore une fois, l'utopie, l'idéal du peuple d'Israël vivant au milieu des nations, mais d'une façon tout à fait sédentarisée. Et alors, cela se conclut, ce deuxième discours de Moïse va se conclure au chapitre 28, verset 69. Donc ceci, c'est toute cette loi donnée depuis 4 depuis 1947.
Et cette loi commence,
le code commence,
par le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom.
C'est une manière de décrire le temple de Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom.
Mais c'est encore, il ne se trouve pas encore à Jérusalem, il se trouve encore à la frontière. Car ce Deutéronome est placé comme étant pratiquement une seule journée. Tout ça se passe dans le temps d'une seule journée, au moment où Israël va passer le Jourdain pour entrer en Canaan, hein, ça c'est la mise en tête qu'elle est décrite, pour passer en Canaan, Moïse restant de l'autre côté. Mais le narrateur, qui nous reprend les discours de Moïse, lui se trouve déjà de l'autre côté. Il dit tout ce qui se passe dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain. Mais Moïse reste au-delà du Jourdain. Et donc, ce grand code de Deutéronomie qui date, qui a commencé, disons, à 622, donc à l'époque de Josias, de la royauté, et qui est un développement de réalité que vous trouvez dans la loi, le code sacerdotal, dans le code sacerdotal, vous trouvez surtout la célébration des fêtes, elle va revenir ici. Alors, ce code de Deutéronomie, disons-le tout de suite, même s'il faudra y revenir, a ceci de très particulier qu'il est centré, non pas comme dans les grandes lois que vous trouvez en Assyrie ou en Babylonie, par exemple, hein, le code de Hammurabi, pourtant il y a des choses qui reviennent, mais au lieu d'être centré sur le pouvoir, le roi, ses conseillers, les chefs de guerre, hein, différentes instances, puis le peuple, le code deutéronomique a comme centre le petit, la veuve, l'orphelin, l'immigré qui habite chez toi. Là, vous aviez un code de type sacerdotal, il marquait un certain pouvoir encore, un certain pouvoir des prêtres, de l'agent sacerdotal, disons que ce code est d'inspiration plus cléricale. Ici, dans le code de Deutéronomie, c'est d'inspiration plus socialiste. C'est vraiment une attitude de respect pour le peuple, qui est présence de Dieu, évidemment. Le petit peuple, le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigré qui habite chez vous. Si vous faites attention aux pauvres dans notre pays, à tous ceux qui n'ont pas de droits, et si vous restaurez leurs droits, alors vous vivrez. Et c'est en cela que le code de Deutéronomie est un code utopique, car il ne sera pas réalisé en Israël. Parce que dès qu'on aura un roi, ce roi voudra avoir le pouvoir. Et dès qu'on ne sert plus les autres, mais dès qu'on se sert des autres et qu'on prend le pouvoir, ça va au fiasco. On va en droit de ligne à l'exil. Et l'exil va être présent ici. On voit bien que c'est un texte qui a été forgé après l'exil, pour se poser la question, mais qu'est-ce que nous avons fait pour être punis à ce point? Nous n'y partions punis par nous-mêmes, hein, en nous mettant dans l'engrenage de la puissance. Qu'est-ce que nous avons fait? Et donc c'est une réflexion post-exilique, d'après l'exil, sur ce qui aurait dû être et qui n'a pas été, mais qui reste toujours comme l'idéal proposé par Dieu. Et alors vous avez, telles sont les paroles, de nouveau, telles sont les paroles. Telles sont les paroles. Ah, on est passé du code à l'alliance. Les paroles de l'alliance que le Seigneur commanda à Moïse de faire avec le peuple d'Israël au pays de Moab. C'est pas encore le pays d'Israël. En plus de l'alliance qu'il avait faite avec eux à l'Horeb. Et le Sinaï n'est pas appelé Sinaï dans le livre de Deutéronome, mais est appelé Horeb. Horeb, c'est ce qui extermine, c'est l'exterminateur. Horeb, c'est cette présence de Dieu, incandescent par quelque sorte. S'approcher trop près, c'est se brûler. Et donc ça, c'est au chapitre 28. Telles sont les paroles de l'Alliance. Donc il s'agit vraiment de vivre cette alliance avec Dieu. Et puis, cette fois-ci, c'est au chapitre 33, donc c'est de 28 à 31, et puis 32-34. Vous avez alors, telle est la bénédiction, la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Comme un bon testament, le livre du Deutéronome est en quelque sorte le testament de Moïse, un bon testament, on rappelle d'abord ce qu'on a fait. Ah, vous savez comment j'ai acquis telle maison, etc., comment j'ai fait ceci, telle transaction, vous vous rappelez. Eh bien, maintenant, voilà votre situation, et quel sera votre avenir? C'est trois. Ce passage que vous trouvez dans tous les discours d'adieu, dans les testaments, vous le trouvez ici, dans ce livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, qui s'appelle « Parole », en hébreu, de la Bible. Les paroles action. Ce sont des paroles agissantes. Des paroles qui travaillent. A été appelé par la Septante, quand on a traduit en grec, Deutéros Nomos. La deuxième loi. Deuxième loi. C'est pas une deuxième loi, c'est pas une intuition. C'est une loi qui devient maintenant prêchée. Une loi qui devient proclamée. Ici, Moïse intervient vraiment comme un prophète. Un prophète qui essaie de donner sa conviction profonde à son peuple. Et de même, que vous aviez à la fin du livre de la Genèse, la mort de Jacob, avec répétition, avec la mort de Joseph, déjà une ouverture, un profil vers l'avenir. De même ici, vous avez la mort de Moïse, au-delà du Jourdain. Mais je viens tout de suite à cela, même si nous reprendrons un certain nombre de textes importants la fois prochaine de Deutéronome pour voir comment il est ouverture vers l'avenir. Je prends tout de suite le chapitre 34e, le dernier du Pentateuque. Alors, donc après avoir fait toute cette bénédiction au peuple, je vais prendre, après avoir, comment je dirais, enseigné, c'est pas le mot, fulminé en quelque sorte son cantique, c'est un cantique terrible, le chapitre 32e, que nous avons dans l'office, nous avons quelques passages, le chapitre 32e, cantique de Moïse, terrible, parce qu'il nous dit comment nous sommes dans ce cantique, ou comment ce cantique est le témoin de nos mauvaises actions. Et il nous rappelle sans cesse, quand on nous reproche quelque chose, ça veut dire qu'on nous invite à avancer. C'est pas comme ça que nous le prenons généralement. Mais dans la Bible, c'est toujours comme ça. Quand Dieu reproche quelque chose à son peuple, c'est pour le rendre libre. Pas du tout pour le condamner. Et donc, ce cantique, mais nous le prendrons la fois prochaine, dit des choses très, très importantes sur la vie du peuple d'autrefois que nous sommes. Et puis alors, on distribue des tâches en donnant, comme ici c'était Jacob, c'est Moïse, il donne des tâches aux différentes tribus. Alors, passons. Partant, des steppes de Moab,
de Jérusalem et de Jéricho surtout.
Moïse gravit le mont Nebo,
sommet du Pisga, Pisga veut dire sommet, en face de Jéricho. Voilà, et on voit hein, l'oasis de Jéricho là dans le fond. Belle vue d'ailleurs, à partir du mont Nebo.
Le Galaad jusqu'à là, tout Neftali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, oui, ça va très loin. Le Negev, au sud,
on voit beaucoup, hein, mais il faut attendre très clair pour voir tout ça.
Le Negev, le district de la vallée de Jéricho, ville de Palmiers, jusqu'à Tsoa. Le Seigneur lui dit, voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, et on vient au début, en ces termes, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Nous avons tous une limite à notre vie, en fait, distance, tu n'y passeras pas. C'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur, un titre qu'on me donne car les gens choisissent, Evet Adonai, c'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur, en terre de Moab, donc il ne sera pas enterré dans le territoire d'Israël. Alors, d'après ma traduction ici, selon l'ordre du Seigneur, l'hébreu porte Alpi Adonai, sur la bouche du Seigneur. Ah, la bouche du Seigneur, c'est celle qui donne des ordres, je suis tout à fait d'accord. Sur la parole du Seigneur, on peut traduire comme ça aussi. Alpi Adonai, sur la bouche du Seigneur. Mais les Midrashim juifs prennent le texte dans son sens littéral, sur la bouche du Seigneur. Et il nous donne, hein, c'est comme la manière dont la tradition d'Israël nous le présente, la mort, c'est un baiser de Dieu. Mourir, c'est vraiment entrer dans son intimité. Selon l'ordre du Seigneur, sur la bouche du Seigneur. C'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur en terre de Moab, sur la bouche du Seigneur. Il, Dieu, l'enterra.
On ne sait pas où est passée la tombe de Moïse. C'est bien qu'on en a fait une. L'islam a fait une tombe de Moïse de l'autre côté. Hein. On a fait passer le Jourdain.
Il l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Vis-à-vis de Beth-Péor, justement l'endroit hein, où on s'est prostitué avec le dieu des Cananéens, le dieu des Madianites.
On les a tous tués d'ailleurs pour leur pénitence, non hein?
Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Vis-à-vis de ce qui était l'apostasie d'Israël. Nous sommes toujours avec tout ce que nous avons fait de mal, c'est ce que nous avons à offrir à Dieu. C'est lui qui peut le transformer, pas nous. Vis-à-vis de Beth-Péor, jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas éteint. Et sa vigueur épuisée, on peut le comprendre, parce que c'est droit tout le pays, donc ça. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse 30 jours dans les steppes de Moab. Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent, c'est l'expression courante, hein, on dit déjà dans les patriarches. Josué, fils de Noun, Noun signifie le poisson, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. C'est à lui qu'obéirent les enfants d'Israël, exécutant l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Pour continuer la tâche, il ne s'est plus élevé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, que de signes et de prodiges le Seigneur lui fit accomplir au pays d'Égypte, contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays, voyez, on rappelle l'Exode. Quelle main puissante et quelle grande terreur Moïse avait mise en œuvre aux yeux de tout Israël. Donc voilà un peu plus les entrailles.
faudra encore voir la fois prochaine, de manière un peu plus précise, tout ce qui est présent dans ce Deutéronome. Disons seulement que le Nouveau Testament s'inspire de ce Deutéronome, notamment dans les discours d'adieu. Saint Jean, dans le discours d'adieu de Jésus après la dernière scène, refait exactement le même trajet que Moïse. C'est-à-dire il rappelle les choses, et puis il dit la situation, et il leur ouvre un avenir. Saint Paul, lorsqu'il fait ses adieux, son testament, aux anciens d'Éphèse sur la plage de Milet, refait exactement le même jour. Vous savez comment je suis apparu parmi vous. Maintenant, voilà votre situation, alors prenez garde. C'est à vous maintenant que vient la responsabilité de guider le troupeau du Seigneur. Jusqu'ici, c'est moi qui ai pris les coups, à votre tour, après moi. C'est chaque fois ce que vous trouvez dans cette relecture du testament de Moïse par le Nouveau Testament. Nous reviendrons la fois prochaine sur les trois discours de Moïse dans le Deutéronome et nous essayerons de tirer les conclusions de cet ensemble du Pentateuque pour notre vie.
Non pas bouclé, mais pour achever petitement notre introduction au Pentateuque. Je suppose que vous avez eu le temps de lire et de relire le Deutéronome quelques fois, que vous avez pu découvrir jusqu'à quel point le Deutéronome et la fête de Noël sont un seul et même mystère, c'est-à-dire le mystère de l'intériorité de la loi faite homme. Je vais revenir encore quelques minutes sur le Deutéronome, et alors nous essaierons de terminer le cours en nous interrogeant sur deux points. Le premier, pourquoi la Bible met-elle en même temps des récits et des codes de loi? Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi c'est un exemplaire unique dans l'histoire des religions? Généralement, on fait des codes de loi qui sont séparés de la réalité de l'histoire. Tandis que dans la Bible, les deux choses sont mêlées. Pourquoi et comment? Deuxième point sur lequel nous reviendrons, finalement, y a-t-il une théologie du Pentateuque et qu'est-ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui? Car il y a certainement une leçon pastorale à tirer d'un livre aussi actuel que le Pentateuque. Il me semble que c'est une œuvre d'autrefois, mais c'est vraiment une réalité d'aujourd'hui. Alors, revenons encore quelques minutes sur le Deutéronome. Nous avons vu que le Deutéronome se divisait en trois discours de Moïse, qui sont pratiquement le testament. Il y a le premier discours de Moïse, qui est un rappel d'autrefois, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'expérience du Sinaï? Elle se trouve derrière, et cependant, elle est encore actuelle. Vous savez que le Deutéronome, vous avez bien regardé, vous avez bien lu, revient constamment sur le terme « aujourd'hui ». Et effectivement, le Deutéronome, dans une sorte de fiction littéraire, le Deutéronome, c'est le testament que Moïse donne au peuple en restant de l'autre côté du Jourdain, le peuple va passer, et tout est censé se passer pendant une journée. Et donc quand on dit aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de cette journée du testament de Moïse, mais c'est cette journée d'aujourd'hui pour nous également qui le disons. Donc premier discours de Moïse, donc c'est une sorte de rétrospective. Rétrospective. Comment le Sinaï est-il présent à notre existence aujourd'hui? Vous savez que dans la tradition juive,
le Sinaï, hein, la montagne du Sinaï qui représente l'expérience de Dieu, est censé se déplacer avec chaque juif. Ça, c'est la réponse. Deuxièmement, le deuxième discours de Moïse, c'est de nouveau un discours, mais il est inséré le code que l'on appelle généralement Deutéronomie. Et qui commence par le sanctuaire de Jérusalem et l'autel, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Le seul lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, c'est le temple de Jérusalem, et quand on relit cela, c'est le temple que chacun est. C'est d'ailleurs ce que Jésus, l'interprétation que Jésus va donner au deuxième chapitre de l'évangile de Saint Jean. Le code de Deutéronome, qui va du chapitre 12 à 26, et qui se termine par l'offrande des prémices, l'offrande des prémices de la terre, montrant bien que la terre ne nous appartient pas. En prendre possession, ce n'est pas la prendre à soi. La terre, c'est la réalité de cette vie qu'il nous est donné de gérer en relation avec le Seigneur lui-même. Donc, surtout, nous avons au centre de ce deuxième discours de Moïse, ce code de Deutéronomie qui est inséré donc, dans une histoire rappelée par Moïse, qui est intégré, donc un code de loi qui est intégré dans une histoire racontée et enseignée. Nous avons un troisième discours de Moïse, qui est une sorte de conclusion, et qui se termine par un cantique. Puis, terminé, la quatrième partie, la bénédiction des tribus. Tandis qu'est au chapitre 32, la bénédiction des tribus et la mort de Moïse. Voilà. Saint Jean se rappellera de ce testament de Moïse quand il nous donne, après la dernière scène, le testament de Jésus. Le testament de Jésus, ce qu'on appelle généralement le discours après la scène, est formé de cette manière-là. Donc il y a lorsque Jean écrit ces paroles de Jésus, il reprend le schéma du Deutéronome avec la même fiction littéraire. C'est Moïse qui nous dit aujourd'hui quel est ce que nous avons à vivre sous le regard de Dieu. Eh bien, le discours après la scène, c'est le discours de Jésus à son Église et à l'humanité, mais placé juste avant sa mort, comme ici c'est placé juste avant la mort de Moïse, pour nous dire le sens de l'Église à l'intérieur de laquelle Jésus vit. C'est pour cela que ça se termine aussi par un cantique, qui est la prière de Jésus à son Père. Prière sacerdotale, comme on l'appelle généralement, et le terme est bien choisi, parce que Moïse ici, au fond, fait la fonction de médiateur entre Dieu et le peuple, comme pour dire que le peuple est médiateur entre Dieu et l'humanité. Donc vous voyez, il y a déjà toute une théologie insérée dans cette réflexion sur la loi. La loi étant justement ce qui nous meut, ce qui nous promeut dans la liberté, ce qui nous fait devenir libres. Libre, c'est toujours se situer en vérité face à Dieu, face à soi-même et face aux frères et aux sœurs du monde. Donc voilà un peu la manière dont le Deutéronome a été constitué, comme deutéros nomos, comme deuxième loi, comme deutérose. Répéter la loi. Répéter la loi, c'est la vivre. On la répète à travers son corps. Pas seulement à travers son esprit, mais à travers esprit, cœur et corps. Et ces dimensions apparaissent tout le temps dans le
le livre du Deutéronome.
Le Deutéronome est aussi le livre qui met en exergue la réalité de l'amour. Tu aimeras.
Bon, on dit souvent que l'Ancien Testament ne parle pas d'amour, c'est tout à fait faux.
L'amour et le cœur sont présents précisément dans ce livre du Deutéronome. Vous voyez bien que ce livre du Deutéronome est une réflexion, non pas seulement sur l'histoire, mais une réflexion sur l'aujourd'hui de l'histoire. Qu'est-ce qui est à vivre dans chaque aujourd'hui qui nous est donné? Et je reprends seulement, parce que c'est très éclairant, vous avez au chapitre 11, juste avant de commencer le code deutéronomique, vous avez ceci. Donc je prends le chapitre 11 du Deutéronome qui commence par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu garderas toujours ses observances, ses lois, coutumes et commandements. » Garder, ce n'est pas seulement une observance extérieure, garder, c'est vivre de cette expérience du Sinaï. C'est vous qui avez fait l'expérience et non vos fils. Vous devez transmettre le fait que vous avez fait l'expérience. L'expérience, c'est à eux à la refaire. C'est vous qui avez fait l'expérience et non vos fils. Eux n'ont pas vu ni connu les leçons du Seigneur votre Dieu, sa grandeur, la force de sa main et la vigueur de son bras. Les signes et les œuvres qu'il a accomplis au cœur de l'Égypte contre Pharaon et tout son pays, ce qu'il a fait aux armées de l'Égypte, à ses chevaux, à ses chars, en ramenant sur eux les eaux de la mer des roseaux, lorsqu'ils vous poursuivaient, et comme il les anéantit, il les a anéantis jusqu'à aujourd'hui. Ces chevaux de l'Égypte, ce ne sont pas des chevaux physiques, les chevaux de l'Égypte, ce sont les plus...